Les médias, pour moi, c'est des chroniqueurs, des animateurs.
Derrière, il y a plein de choses, des techniciens, des micros.
Interclass.
Ça part de ma génération.
J'ai ma propre opinion, je pense que je réfléchis.
Après les attentats de janvier 2015, le vivre ensemble, formule très respectable, a été lessivé dans les discours politiques et usé par la communication. Nous lui préférons agir ensemble. Et dans le dispositif Interclasse, c'est précisément ce que nous faisons, travailler en équipe pour agir ensemble. Interclasse, c'est le programme d'éducation aux médias et à l'information de France Inter. Pendant toute une année scolaire, des journalistes et des producteurs accompagnent des élèves qui grandissent dans des quartiers populaires. Notre objectif, leur faire découvrir l'univers magique de la radio. Et dans ce programme où collégiens et lycéens deviennent des petits reporters, chaque élève est acteur de ses apprentissages pour amener l'ensemble de son groupe vers la réussite. Ils réalisent des interviews dans des conditions professionnelles. Les élèves sont donc totalement responsabilisés dans ce travail radiophonique et nous vous proposons aujourd'hui d'écouter leurs reportages produits avec eux et par eux. Bonjour à tous, vous écoutez France Inter, bienvenue dans Interclasse.
Interclasse saison 3.
C'est parti!
Les ados font de la radio comme des pros
sur France Inter.
Ça m'a fait beaucoup plaisir d'échanger avec vous.
Courage!
Soyez solidaires, donnez-vous de bons conseils entre vous. Si vous réussissez aujourd'hui, c'est pour vous-même. C'est vous qui êtes l'avenir de demain.
Extrait de l'un des reportages que nous allons écouter dans cette émission pour cette troisième saison. Nous avons demandé à chaque classe de faire des interviews en s'inspirant de l'un des mots de la devise républicaine. Et cet après-midi, nous vous proposons d'écouter le travail des élèves du collège Georges Rouault à Paris. Et ils sont tous dans ce studio. Ouais. Vous habitez dans le 19e arrondissement et avec Aïcha, Chanel, Saïf Ali, Rohan, Kelvin et Boubou, nous parlerons de votre quartier, de votre vision de la société et de vos rêves. Également devant les micros pour présenter les quatre reportages qu'ils ont réalisés avec leurs camarades Fatoumata, Jay-Z, Rim et Mariam. Vous êtes venus évidemment avec vos enseignantes, Elena Pavel, professeure d'histoire-géographie, et Laurence Grammard, professeure documentaliste. Elles vous ont accompagné tout au long de cette année, les journalistes Sarah Guibaudot du service police-justice de la rédaction de France Inter, Dorothée Barba, journaliste et chroniqueuse à Inter, Caroline Gillet, productrice de Babelophone, et puis Cyprien Pézeril, étudiant en journalisme à l'IPJ Paris-Dauphine.
Liberté,
égalité,
fraternité.
Liberté, liberté, égalité, fraternité.
La devise républicaine a été une grande source d'inspiration pour ces élèves de 14 ans qui grandissent à Paris dans le 19e. Fraternité, avec la coutume de la tontine, très pratiquée dans les familles d'origine africaine. Nous évoquerons ensuite l'égalité filles-garçons à travers les jeux qui sont proposés aux plus petits. Puis nous irons voir si cette égalité est respectée dans les start-up. Enfin, la liberté avec des témoignages du Sénégal et d'Algérie. Mais avant d'écouter tout ça, direction l'Est de Paris pour découvrir votre quartier.
Yeah, yeah, yeah. Ici c'est
Paris,
ici c'est
Paris,
ici c'est
Paris,
ici c'est
Paris.
Bienvenue dans le 19e arrondissement. On vous propose une petite balade tranquillement.
Mon quartier, il est très convivial, varié et plein de fraternité. Ce que je retiens de mon quotidien, c'est les parcs, mes amis et les petits magasins.
Mon quartier, il est très mixte et il y a beaucoup d'origines. Il y a les amis, la famille et les personnes âgées que nous devons aider. Ici, pour moi, la vie est belle, malgré les hauts et les bas.
Mon quartier s'est modernisé et avec mes copains, je vais y jouer. Je les bats tous au foot. Certains étaient tellement dépités qu'ils en ont pleuré. Ce que j'aime dans le 19e, c'est que ça peut être calme et en même temps bruyant.
Mon quartier évolue, mon quartier avance, sa diversité c'est sa richesse et pour nous c'est une fierté.
Mon quartier à moi, c'est Danube. Il est accueillant, chaleureux. Danube, c'est un endroit très vivant.
Ici c'est
Paris,
ici c'est
Paris,
ici c'est
Paris,
ici c'est
Paris.
Merci pour ce portrait de votre quartier, Kelvin.
De rien.
Tu l'aimes, ce quartier?
Oui.
Pourquoi?
C'est un quartier très familial, hospitalier, où il y a plusieurs cultures. Il y a des associations, des divertissements. Il y a tout pour y réussir, en fait. Et voilà.
Boubou, tu aimes bien ton quartier?
Oui.
Qu'est-ce qui te plaît?
Il y a beaucoup, il est attractif. Il y a beaucoup d'associations.
Et tu fais partie d'une association?
Oui, ça s'appelle Centre social et culturel Danube. On y fait plusieurs projets. Après, il nous emmène à l'étranger ou...
Alors, où est-ce que tu es allé à l'étranger?
Non, pas encore. Là, on va aller en Grèce cet été. Et en avril 2019, on va aller au Cambodge.
Ça, c'est chouette hein, de voir tous ces nouveaux pays.
Oui.
Alors, chaque année, on constate, lorsque vous venez à Radio France en septembre, que certains de vos camarades du collège découvrent la Tour Eiffel, puisque pour venir à Radio France, on passe devant la Tour Eiffel quand on arrive du 19e, découvrent donc la Tour Eiffel pour la première fois, alors que vous vivez à Paris. Comment vous expliquez ça? Je crois que ce n'est pas le cas cette année pour vous. Vous aviez déjà tous vu ce monument parisien. Mais c'est vrai que les années précédentes, on a pu observer ça. Comment vous expliquez, Kelvin?
Alors, je pense que c'est des élèves qui sont très attachés à leur quartier et qui ne cherchent pas à voir l'horizon, tout ce qui les entoure, et ils ne cherchent pas à sortir du quartier.
Est-ce que tu crois qu'ils ont peur de sortir du quartier?
Non, je ne pense pas qu'ils ont peur. Je pense plutôt qu'ils ont... ils n'ont pas envie, en fait.
Rohan?
Moi, je pense qu'ils n'ont pas le temps, c'est tout.
Et ils sont très occupés?
Ah, peut-être, hein.
Elena Pavel, vous êtes professeure d'histoire-géographie, vous pensez que c'est un manque de temps?
Pendant longtemps, je pense que ça a été surtout un manque d'accès. Et on a eu une véritable rénovation hein, dans le 19e arrondissement. Et du coup, ça a ouvert le 19e sur le reste de la ville. Après, on a quand même des retours. Alors, c'est peut-être pas la Tour Eiffel, mais souvent, on a des élèves qui n'ont pas l'impression d'habiter à Paris. Je parle d'architecture, de propreté des rues, par exemple. En fait, il faut les sortir du quartier pour qu'ils s'en rendent compte. C'est quand on revient dans le quartier qu'on a ce genre de remarques après.
Nous sommes avec les troisièmes du collège Georges Rouault de Paris et avant les reportages, Esprit Noir avec Nekfeu, juste pour voir.
Où sont les miens? Certains m'ont laissé, je rajeunis pas. Je me souviens, plus jeune j'avais trop l'âge, je rajeunis pas. Je suis dans le 9-1, les deux pieds sur le siège, la tête est vers le ciel. Et dans le train, personne ne le sait, mais j'ai la gorge sèche. Ouais c'est la fin, viré du lycée, c'était le 5e. Je roule un joint, au point où j'en suis, y'a plus que ça qui aide. Et je suis pas bien, quelques bouteilles d'alcool, on va s'enquiller. Demain c'est loin, je dormirai dehors et maman s'inquiète. 3h du matin, je pars chez ma. Je pense à mes galères sur le chemin. Ils voulaient que je rentre dans leur schéma. Niquez vos mères, vous savez même pas ce qui se passe chez moi. Juste pour voir, viens faire un tour dans nos têtes. Juste pour voir, j'ai gratté mon premier texte. Juste pour voir, allez viens nous test. Juste pour voir, j'ai mes cavas sur le texte. À la base j'ai commencé la musique juste pour voir. J'étais très différent de ceux qui cherchent plus de pouvoir. Je m'amusais à tester les plus grands que moi juste pour voir. Et maintenant le public vient en concert juste pour voir. À la base j'ai commencé la musique juste pour voir. J'étais très différent de ceux qui cherchent plus de pouvoir. Je m'amusais à tester les plus grands que moi juste pour voir. Et maintenant le public vient en concert juste pour voir.
Je suis un humain, parfois je fais des crises, parfois je fais des crasses, moi comme tout le monde, j'avais des putains de rêves, je voulais laisser des traces. Mais bon, la vie, c'est jamais comme tu veux, jamais comme t'as prévu. Je vends la peur, la détresse dans les yeux, tout comme si j'avais bu. Je suis pas content, à la rentrée, maman ne m'a pas pris ma paire. À 16h30, je commence à douter, je n'avais pas de goûter. Je suis embêté, je peux même dire en pétard. Maintenant, je suis entêté, en VTT. Le soir, je rentrais tard, le soir, je rentre pété. J'ai des problèmes, j'en avais plein la tête, je suis déscolarisé. Le bien, le mal, comprends que je fais les deux, je suis bipolarisé. Bah ouais m'appelle, c'est Paris dans la couve, c'est Paris en nature. Je fais peu la pète, trop noir sur la photo, trop de fois j'ai fauté. Je suis un ado, je suis un coach, je suis un homme. Et je ferai tout pour inverser la donne. Au fond de la classe, les deux pieds sur la table, les doigts sur le téléphone. Le cours de maths, je l'ai assimilé, mais tu puis et les sommes. À la base j'ai commencé la musique juste pour moi. J'étais très différent de ceux qui cherchent plus de pouvoir. Je m'amusais à tester les plus grands que moi juste pour voir. Et maintenant le public vient en concert juste pour voir. À la base j'ai commencé la musique juste pour voir. J'étais très différent de ceux qui cherchent plus de pouvoir. Je m'amusais à tester les plus grands que moi juste pour voir. Et maintenant le public vient en concert juste pour voir.
La finance qui tire les ficelles de la démocratie. Et moi je suis blanc donc bénéficiaire de leur système raciste. Faut prendre des risques, je fais confiance au squat. Personne ne recompte ses parts. Ma chérie, on est ensemble jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Je suis un môme, je suis un boss, je suis un homme. Tu sais pas ce que je pense jusqu'au prochain album. Je fais des erreurs, plus jeune, j'ai pas toujours respecté les femmes. Je veux être un mec normal, j'ai du mal à rester près des fans. Juste pour voir, viens faire un tour dans nos têtes. Juste pour voir, j'ai gratté mon premier texte. Juste pour voir, allez, viens nous test. Juste
Juste pour voir, Esprit Noir avec Nekfeu.
Interclasse.
On est déter.
Oh my god.
Sur France Inter.
Sur France Inter, c'est Interclasse avec les collégiens de Paris. Et en face de moi, Jay-Z. Bonjour Jay-Z.
Bonjour.
Alors, quel mot de la devise républicaine as-tu choisi pour faire ton reportage avec tes camarades?
Nous avons choisi d'illustrer la fraternité.
Et c'est quoi la fraternité pour toi?
Pour moi, la fraternité, c'est une valeur de la République qui a pour résultat de diminuer les inégalités en préservant ce qu'on aime.
Et quel sujet vous avez imaginé?
Nous sommes rendus à la mairie du 19e,
ouais.
Où nous avons rencontré Fatoumata Kone, élue écologiste au Conseil de Paris, ainsi que Massiata Koulibaly, qui est la tante de Fatoumata Kone, qui organise des tontines, et Sally Kone, qui est la mère de Fatoumata Kone, qui participe aux tontines depuis très longtemps.
Donc c'est très familial. Alors c'est quoi une tontine pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce principe?
Une tontine, c'est une association de personnes qui cotisent à une caisse commune, récupérée chaque fin du mois par une participante ou un participant.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que dans cette caisse à laquelle participent différentes personnes, eh bien, à la fin du mois, on redonne le tout à l'une des participantes. Donc, vous avez rencontré trois femmes. Elles vous ont expliqué comment fonctionne la tontine, à quelle personne c'est destiné. Et on va voir que c'est vraiment une bonne illustration de la fraternité entre habitants d'un même quartier.
Un dimanche à 14h, on s'est retrouvés à la mairie du 19e arrondissement de Paris. Nous avons eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un pour nous parler des tontines. Parce que les tontines, c'est un peu secret. La plupart des participantes parce qu'il n'y a quasiment que des femmes, ne se sentaient pas légitimes pour parler des tontines dans un micro. Heureusement, l'une d'elles nous a répondu. Fatoumata Kone.
C'est un moyen, entre guillemets, détourné de faire des économies. C'est vrai que certains se disent, pourquoi faire une tontine? Je mets l'argent dans ma banque, à la banque, et puis, c'est vrai que la différence avec la tontine, c'est que, un, c'est un moyen qui nous force à économiser, parce qu'effectivement, il faut donner l'argent tous les mois à la personne en question, et c'est aussi une avance. C'est un crédit, on va dire, à 0%, puisque il n'y a pas d'intérêts qui sont à remettre. Moi, ça m'a permis, par exemple, de me payer des voyages, ou de me payer des choses qui coûtaient très cher. Parce qu'en fait, finalement, quelquefois, quand on a l'argent dans la poche, on est très tenté de pouvoir le dépenser assez rapidement.
Des voyages pour Fatoumata Kone, mais aussi pour sa mère, Sally. Elle profite et fait profiter des tontines depuis plusieurs années.
Quel était votre premier voyage avec vos enfants?
Mon premier voyage, c'était 2005. On est parti à Abidjan. À nous tous, j'ai payé aller-retour 5 millions. On était 5 personnes parties aussi, grande famille.
Une tontine doit être très bien organisée. Dans le 19e, il en existe un grand nombre, comme l'explique Massiata Koulibaly.
Il y a toutes sortes d'origines. Il y a des maghrébines, il y a des ivoiriennes, il y a des sénégalaises, il y a des maliennes, il y a un peu de tout. Même il y a des gambiennes.
Comment a été créée la tontine?
Oui, la tontine a été créée par rapport à notre situation économique et financière. Il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas. Les tontines, c'est comme un genre de solidarité entre nous, que ce soit les hommes comme les femmes. Et vous êtes dans le besoin. Et si moi, je dois prendre ma part, que ce n'est pas urgent, je ne suis pas dans le besoin, moi, je vous cède ma part. Tout dépend de la compréhension.
S'entraider, mais aussi aider les autres, ceux qui sont dans le besoin, c'est également ça la tontine. C'est un véritable réseau de solidarité.
Avant d'aller au soutien financier, le soutien moral, c'est très important. L'argent ne peut pas tout résoudre. Nous sommes des mamans qui ont des problèmes avec les enfants. On essaye de venir vers elles. On approche l'enfant et on essaye de lui donner des conseils. Comment se comporter, comment parler à ses parents, un peu de tout. Il y a des jeunes qui sont devant, comme on appelle, la porte, la chapelle, les immigrants. Eh bien, il nous arrive de leur donner des petits jetons pour qu'ils s'achètent des casse-croûtes. Pourquoi on le fait? Nous sommes les mamans. C'est vrai qu'on ne peut pas aider tous ceux qui sont dans les misères, mais tant qu'on peut, on le fait.
Fatoumata Kone, Sally Kone et Massiata Koulibaly ont terminé de répondre à nos questions. Et puis, elles nous ont offert de quoi manger. Et Massiata Koulibaly en a profité pour nous donner un dernier conseil.
La vérité, ça rougit les yeux, ça ne les casse pas. Même quand vous faites une bêtise, quand on vous pose la question, dites que vous l'avez faite. Parce que le mensonge, ça rattrape 10 ans après. Le mensonge va prendre l'ascenseur, la vérité va prendre les escaliers, il va toujours rattraper. Ok?
Très belle phrase.
Merci beaucoup.
Promis, hein?
Oui.
Si vous réussissez aujourd'hui, c'est pour vous-même. C'est vous qui êtes l'avenir de demain.
Merci à Bintou, Awa, Jessie, Mehdi et Sidney pour ce reportage à la mairie du 19e arrondissement à Paris, réalisé avec Cyprien Pézeri, l'étudiant à l'Institut pratique du journalisme Paris-Dauphine. Jessie, comment expliques-tu que ce reportage ait été assez difficile à réaliser ?
Ça a été très difficile, à cause des grosses sommes d'argent qui circulent en dehors des circuits légaux.
Ouais.
Et elles ont du mal à nous parler de ça, parce que c'est...
C'est un peu tabou ?
Oui, c'est un peu un sujet tabou. Et vu que déjà qu'elles ne sont pas françaises, c'est encore plus dur qu'elles nous parlent de ça.
Mais cet argent, il est où lorsque quelqu'un, enfin, ou même les participantes, le donnent dans cette caisse commune ? Il est chez quelqu'un ?
Oui, le ramène chez elle.
Donc il faut mieux pas que ça se sache.
Oui.
C'est pour ça que personne ne veut en parler.
Oui.
Vous avez dû attendre longtemps avant d'obtenir des témoignages ?
Oui, 2-3 mois.
Ça s'est débloqué et vous y êtes même allé un dimanche.
Oui, un dimanche à 14h.
C'est une forme de fraternité entre adultes. Est-ce que vous, entre jeunes, vous êtes fraternels entre vous ?
Oui, oui. Par exemple, un camarade, il a besoin des devoirs. Il peut venir chez moi, il me demande, je lui donne à n'importe quelle heure. Et voilà, je peux aller chez lui, comme il peut venir chez moi, on s'entraide.
Est-ce que le fait de participer à Interclasse, où vous travaillez en groupe, où il faut vraiment beaucoup de dialogue entre chaque participant, est-ce que ça a créé aussi des liens particuliers, fraternels, une solidarité ?
Ben oui, mais on était déjà amis quand même. Mais on s'est plus soudés et on a pu prendre la parole, oser la parole entre nous et discuter.
Donc votre sujet, évidemment, il est très, très sociétal. Est-ce que tu penses que tu as un rôle à jouer dans la société maintenant et puis dans l'avenir ?
Oui, on est les jeunes, la nouvelle génération, et on peut aider à développer, à manifester cette fraternité entre nous et s'entraider, comme des associations, on peut entrer dans des associations, faire des projets.
Ok. Mmh. On entend que vous avez envie de vous impliquer dans la société, à travers notamment des associations. Quels sont vos rêves pour vous et pour cette société ? Kelvin ?
Alors, pour moi, mon but, c'est que sur Terre, il n'y ait pas d'inégalité, que tous les pays soient égaux, qu'ils partagent, par exemple, que l'Afrique partage ses cultures avec l'Europe, les continents
En commun ?
En commun, voilà. Tout ce qu'ils ont à apporter. Voilà.
Et ton rêve à toi, c'est quoi, Kelvin ?
Ah, don humanitaire. C'est très important, ça. Pour les personnes défavorisées et pour les aider.
Tu t'engagerais dans l'humanitaire ?
Mm-hmm.
Est-ce que tu as déjà...
À distance, hein, pas aller dans les pays et tout. Don humanitaire, l'argent.
Boubou, c'est quoi ton rêve ?
Moi, c'est de devenir comptable et d'avoir ma propre entreprise.
Jessie, c'est quoi ton rêve ?
M'épanouir dans mon métier. Me lever tous les matins et me dire, j'aime ce métier, j'aime.
Eh ben ça, c'est vraiment une très jolie formule. Eh ben, nous, on se lève tous les matins en disant qu'on adore faire de la radio. Et justement, on vous y fait participer pour que tout le monde puisse accéder à cet univers magique. Et puis, il y en a une qui rêve bien aussi. C'est la copine de Dadju qui veut partir au pays de Bob Marley, vivre une vie de star. Bob Marley de Dadju, énorme tube cette année chez les ados.
Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit ralenti, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit de ralentir, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut des petits. Ma carte de crédit, photo Snapchat du lundi au lundi. Elle est dans son délire, elle même quand y'a la wifi. Tant qu'on nous voit heureux, ça lui suffit. Elle veut trop qu'on soit sur les réseaux. Je suis pas contre mais il faut doser. Comprends qu'on peut pas tout exposer. Sur nous, pour nous, yeah. Elle est dans l'insta love. Elle veut que tout le monde sache que je suis son homme. C'est sa façon d'être love de nous.
veux qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit ralenti, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit de ralentir, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Toujours le même bébé. Hashtag mon bé mon chéri. Quand tu veux qu'on s'envole, n'oublie pas d'atterrir. Comme ça on va pas tenir. La vie c'est pas une série. Tu sais plus vivre ta vie dans la vraie vie. Regarde-moi et dis-moi ce qu'il te faut, ouais. Moi ou une équipe de followers. C'est qu'il y a pire comme gros défaut. Mais je doute de nous, yeah. Elle est dans l'insta love. Elle veut que tout le monde sache que je suis son love. C'est sa façon d'être love de nous. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit ralenti, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit de ralentir, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder.
C'était Bob Marley et c'est signé Dadju.
France Inter.
Interclasse sur France Inter, c'est l'occasion d'écouter le travail des collégiens réalisé tout au long de l'année. Et ils nous présentent au cours de l'émission leur reportage et nous sommes avec Rime. Bonjour Rime.
Bonjour.
Quel mot de la devise républicaine as-tu choisi avec ton groupe pour faire le reportage?
Nous avons choisi l'égalité.
Et alors comment a commencé la réflexion pour choisir ce mot?
Au début, on parlait de l'inégalité homme-femme. Après, on a commencé à parler que les garçons prenaient trop de place dans la cour pour jouer au foot, que les filles, c'est toujours elles qui font la vaisselle. Et du coup, après, on a choisi l'inégalité filles-garçons dans la petite enfance.
À partir de quel âge se créent les inégalités entre les filles et les garçons? Un reportage du groupe de Rime.
Tiens, est-ce que tu peux ramasser les ciseaux qui sont par terre et remettre dans la caisse du docteur? Ismaël.
Nous sommes à l'école maternelle Prévoyance, pas très loin de notre collège. Est-ce que ça existe, le sexisme, quand on a 5 ans? Stéphanie est maîtresse de grande section.
À l'école, les enfants sont tous égaux. On est tous bienveillants avec eux. J'ai des coins. Alors évidemment, j'ai des coins jeux spécifiques. J'ai le coin jeu cuisine, j'ai le coin jeu garage, j'ai le coin jeu poupée. Mais tous les enfants qui veulent aller au coin poupée vont au coin poupée, garçons ou filles. J'ai même des chefs de rangement qui balayent dans la classe. Et je pense que j'ai d'ailleurs plus de garçons qui ont envie de balayer que de filles.
Les élèves sont très impressionnés par notre micro, mais on a demandé à cette petite fille si elle pensait que certains métiers étaient réservés aux garçons.
Les voitures et réparer les motos.
Stéphanie, la maîtresse, a-t-elle été formée pour lutter contre les stéréotypes?
Pas du tout. J'ai été formée il y a quelques années déjà. C'est un sujet actuel en fait, c'est à la mode, c'est maintenant, mais on n'en parlait pas avant. En fait, les stéréotypes, on a l'impression qu'ils apparaissent un tout petit peu plus tard, en élémentaire. C'est là où on leur dit stop, toi t'es une fille, tu joues plus avec nous les garçons. Toi t'es un garçon, tu vas jouer avec les garçons, tu joues plus avec les filles. Enfin voilà. Alors en maternelle, ils jouent encore beaucoup, donc on les voit jouer. Donc on peut intervenir facilement. C'est vrai qu'après, dans les classes plus grandes, ils sont assis toute la journée. On ne sait pas à quoi ils jouent, comment ils se comportent entre eux. Donc c'est maintenant ou jamais.
Direction maintenant un magasin de jouets du centre commercial Villep avec la sociologue Mona Zikai.
Moi j'ai fait des observations en magasin de jouets, c'est-à-dire je me suis fait embaucher comme vendeuse pour voir un petit peu comment ça se passait de l'intérieur, sans préciser que je faisais une enquête, donc j'étais vendeuse en magasin de jouets pendant 3 mois.
Et vous avez mis des caméras cachées?
Je filmais pas, je pouvais pas filmer, mais par contre je prenais des notes régulièrement, j'analysais à la fois le comportement de mes collègues et le comportement des clients. On accepte plus que les filles aillent vers des jouets dits de garçons que les garçons aillent vers des jouets dits de filles. C'est plus accepté.
Nous sommes tombés sur un jeu qui a l'air marrant, des expériences scientifiques. Sur la boîte, on voit un garçon.
Oui, on trouve très 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 peu de filles liées à la science. Et j'ai épluché les catalogues de jouets de l'ensemble des enseignes que j'ai trouvées cette année. J'ai trouvé qu'une seule fille en train de faire de la science. J'ai pris par exemple un catalogue des Galeries Lafayette. Donc quand on tourne les pages, hop, les filles en rose. Voilà. Donc là, vous pouvez regarder. C'est que du coup, ça indique aux enfants ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et ça borne leur champ des possibles. Donc le champ des possibles des filles, c'est ça. Elles ont le droit de jouer à la maman, de jouer à faire le ménage, de jouer à être belle. Et les garçons, ils ont le droit de jouer à être le plus fort. Je pense que c'est quand même assez grave parce que ça construit l'avenir des adultes de demain.
Cette sociologue a constaté que les catalogues étaient beaucoup moins sexistes il y a 100 ans. À l'époque, on ne montrait que les jeux. Pas de garçons ni de filles. Et puis c'était en noir et blanc, pas en rose et bleu. Mouna Zegaï constate tout de même que les fabricants font des efforts depuis 20 ans.
Oui, parce que maintenant ça choque. Il y a Facebook, il y a Twitter surtout. Dès qu'il y a les médias qui s'y intéressent aussi. Donc dès qu'il y a une image qui peut paraître choquante, on la voit dans les médias, elle fait le tour. Donc du coup maintenant ils font un peu plus attention quand même à leur image de marque parce qu'ils savent que les ventes derrière peuvent s'en ressentir.
Ce qui nous a le plus surpris dans ce reportage, c'est que tout le monde se renvoie la balle. Entre les profs, les fabricants de jouets, les parents. C'est toujours la faute des autres. Les stéréotypes disparaîtront si tout le monde s'aperçoit qu'ils existent. Le changement commence par soi-même.
Un reportage de Rim, Kelvin, Léonie, Ayman, Fatima et Loïc, avec l'aide de Dorothée Barba, productrice et chroniqueuse à France Inter. Rim, avant d'aller faire ce reportage, est-ce que vous aviez conscience qu'il y avait une telle différence entre l'univers des filles et celui des garçons ?
Non, mais je savais qu'il y avait... qu'il y avait des choses pour filles et des choses pour garçons, mais je savais pas qu'il y avait autant. Je savais pas c'était quoi le mot stéréotype, mais je l'ai appris cette année.
Et alors c'est quoi la définition du mot stéréotype ?
C'est coller des étiquettes aux gens.
Kelvin, avant d'aller faire ce reportage, est-ce que tu avais conscience qu'il y avait une telle différence entre les filles et les garçons ?
J'en avais un peu conscience parce que... on va dire à peu près depuis la primaire, j'ai souvent entendu des filles se plaindre que les garçons ne laissaient pas jouer au foot, qu'on prenait toute la place, des choses comme ça.
Et toi, par exemple, si une fille a envie de jouer au foot avec vous, tu lui réponds quoi ?
Il n'y a pas de problème.
C'est vrai, ça ?
Tu peux venir.
T'es sûr ?
Oui, je suis sûr.
Et alors, est-ce que c'est le cas ? Il y en a qui jouent au foot avec vous ?
Ça dépend. Des fois, il y en a qui jouent, mais elles jouent plutôt sur le côté, parce que, je sais pas, peut-être elles ont peur de jouer avec nous.
Et Kelvin, alors toi, tu veux t'engager dans des actions notamment humanitaires, mais tu peux aussi aider les femmes à conquérir leur liberté, non ?
Oui.
Hein, t'es un peu féministe dans l'âme.
Je suis ouvert à tout, je suis ouvert à tout. Toutes les causes.
À toutes les causes. Alors tout à l'heure, tu disais que tu voulais aller en Afrique également pour défendre des causes. Eh bien, là-bas, combattre les stéréotypes, c'est aussi un moyen pour les femmes d'affirmer leur liberté. Et on va écouter une artiste qui se bat pour faire de la musique dans son pays où les islamistes essaient de la faire disparaître. Cette artiste s'appelle Fatoumata Diarra et c'est Bintou qui nous la présente.
Oui, elle chante en Bambara, c'est une langue du Mali. Dans ses chansons, elle parle souvent de la jeunesse et elle demande à chacun de respecter sa culture et ses traditions pour ne pas les perdre.
On écoute... Terini.
Nkanu tala yolo jana ale maso zima Njarabi tala yolo jana ale maso zima Terini Terini ngabe disa Njarabi ma pega nyalo nyala Terini I want to know Terini, Terini,
C'était Terini de Fatoumata Diawara.
France Inter,
Interclasse.
Nous sommes avec les collégiens de Georges Rouault de Paris dans le 19e arrondissement. Cette année, les élèves ont travaillé sur la devise républicaine pour faire leur reportage. La classe est intéressée à l'égalité dans le reportage qu'on a écouté tout à l'heure. Et bien encore un reportage sur l'égalité, mais dans l'univers professionnel et le monde de l'entreprise cette fois. Nous sommes avec Fatoumata, bonjour.
Bonjour.
Vous avez donc choisi de parler de l'inégalité homme-femme.
Oui, on a été voir le monde des startups. Ce sont des entreprises qui innovent. On en parle énormément aujourd'hui. Nous avons visité des bureaux où tout est fait pour que les employés se sentent bien. La décoration est colorée, il y a une cafétéria et on peut même y faire la sieste. Mais en réalité, c'est un univers très masculin, voire sexiste, et il y a très peu de femmes qui dirigent.
C'est d'ailleurs le titre de votre reportage, Start-up, où sont les femmes ?
Nous sommes allés d'abord au Cargo, dans le 19e arrondissement de Paris. C'est un incubateur de start-up, un grand immeuble moderne qui accueille de toutes jeunes entreprises innovantes pour les aider au démarrage.
Voilà, les startups peuvent venir toute la journée s'installer pour travailler. Il y a une salle aussi là-bas pour faire des réunions. Même au 5e étage, il y a une table de ping-pong et un baby-foot.
La première étape, c'est de trouver des investisseurs, parfois méfiants quand la patronne est une femme. C'est ce qu'a vécu Valérie Béranger-Ford. Elle a créé JTVK, un média destiné aux enfants.
Je me souviens d'une phrase qui m'avait un petit peu blessée. La première chose qu'ils m'ont dit, mais c'est « Est-ce que tu es bien mariée ?» Est-ce que ton mari il va te prendre en charge pendant que tu feras ta start-up ? C'est à la fois une question qui est juste, parce que quand vous êtes en start-up, dans certains cas, tu ne vas pas te payer pour payer des fournisseurs, pour pouvoir avancer. Mais je pense qu'un garçon, il ne lui aurait pas posé la question.
Après avoir trouvé des fonds, les jeunes entrepreneurs doivent aussi trouver des clients. Là aussi, être une femme peut être un obstacle, témoignent Virginie Auchard et Dan Nguyen, les fondateurs de Challengers.
Il y a certains clients qui réagissent mieux au fait qu'il y ait un homme dans l'équipe plutôt qu'il n'y ait que des femmes. Voilà, donc c'est vrai que souvent, moi j'ai la chance d'avoir fondé une entreprise avec un associé. Donc du coup, on va souvent à deux aux rendez-vous commerciaux parce que ça permet parfois de rassurer certaines personnes.
Surtout en fait, s'il y a un homme en face, ça peut arriver qu'il fasse moins confiance à une femme et c'est dommage. Je dirais que même aujourd'hui, certaines femmes, surtout si elles ont pas mal d'expérience en fait elles-mêmes, ne donnent pas forcément leur chance à d'autres femmes.
Rendez-vous maintenant dans les locaux de Facebook à Paris. Le patron américain, Mark Zuckerberg, est très connu. Son bras droit est une femme, Sheryl Sandberg, qui veut encourager les femmes à créer des entreprises. Le travail de Caroline Matt, c'est justement d'aider des startups françaises à démarrer.
Moi, à l'intérieur de Facebook, j'ai monté une sorte de programme d'accompagnement de startups qui s'appelle le Startup Garage. On cherche des nouveaux entrepreneurs toujours et c'est difficile de trouver des femmes. En fait, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais ça peut être parce qu'elles vont avoir peut-être moins confiance en elles. Une femme va moins se mettre peut-être en valeur. Aussi, un manque d'habitude à être dans un environnement qui est très masculin. Et les hommes, il y a encore un petit peu d'hésitation à se dire « c'est une femme, elle va peut-être tomber enceinte, elle va avoir des enfants ». Il y a peut-être encore cette arrière-pensée.
Caroline Matt évoque une forme d'autocensure qui empêche les femmes de se mettre en valeur. Valérie Béranger-Ford est convaincue que c'est en train de changer.
Je n'ai pas osé faire tout de suite mon entreprise. J'avais besoin d'accumuler des compétences, d'accumuler de la crédibilité. Je pense que les garçons, ils sont plus culottés. Pour moi, je pense que c'est vraiment en train de changer. C'est générationnel. Parce qu'aujourd'hui, les filles, elles sont plus éduquées comme les garçons, en fait. Elles sont plus débrouillardes. Pour les gens des années 70, ils étaient encore élevés à Blanche-Neige et à Cendrillon. Là, maintenant, les stéréotypes, c'est du Star Wars, quoi. Les filles aussi, elles ont le droit de prendre le sabre et puis d'aller se tabasser. Je pense que du coup, les nouvelles filles qui arrivent sur le marché des start-up, elles ne se poseront plus du tout les questions que vous vous posez là.
Reportage réalisé par Mehdi Belouza, Aïcha Kouresh, Fatoumata Tandikora, Boubou Traoré et Riyad Youssouf.
Avec l'aide de Sarah Guibaudot, journaliste au service police-justice de la rédaction de France Inter. Fatoumata, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour faire ce reportage ?
Le plus difficile pour moi, ça a été que j'ai dû oser prendre la parole.
Et qu'est-ce qui t'a le plus surprise ?
C'est le taux de femmes dans les start-up et les inégalités qu'elles rencontrent au quotidien. Et le contraste entre les start-up qui veulent nous montrer un monde très positif et la réalité qui en fait, les start-up est un monde très masculin.
Et est-ce que tu penses que c'est le cas dans d'autres univers professionnels ?
Sûrement. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux dans tous les domaines.
Kelvin, l'égalité filles-garçons, vous en parlez entre vous ?
Oui. Parce que, surtout en classe, parce que les filles se plaignent beaucoup, non pas les filles, les garçons plutôt, se plaignent beaucoup que par exemple, les profs, ils font des préférences aux filles, qu'on les juge pas de la même manière.
Ah donc tu considères qu'en classe, les filles ont plus de droits que vous ?
Mm-hmm.
Kelvin, c'est quoi pour toi une femme libre ?
Alors, pour moi, une femme libre, c'est une femme qui peut... Par exemple, si demain elle décide de travailler dans un tel domaine, elle peut. Si elle veut sortir et s'habiller d'une telle manière, elle peut s'habiller comme elle veut. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle est libre dans ses choix, dans son expression de tout ce qu'elle dit.
Fatoumata, c'est quoi pour toi une femme libre ?
Pour moi, une femme libre, c'est une femme indépendante, une femme qui peut et qui a le droit de faire ce qu'elle veut.
Et tu constates que dans ton quartier ou dans ton environnement, c'est le cas ? Les femmes sont libres ?
Elles sont libres, mais elles se mettent elles-mêmes des freins.
Alors qu'est-ce qu'on peut leur dire pour qu'elles ne se mettent plus ces freins ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Par quoi ça passe ?
La confiance en soi.
Oui. Boubou ?
Par le regard des autres, des hommes en particulier.
Kelvin ?
Je pense qu'il devrait y avoir des ateliers qui réunissent des femmes pour leur donner confiance en elles, pour leur montrer par exemple des modèles de femmes aujourd'hui dans le monde qui ont réussi et qui ne se sont pas mis de frein.
Et d'où te vient cette très belle idée ?
Je sais pas, ça fait ting dans ma tête.
Je pense que Kelvin, tu peux t'orienter vers une carrière politique. Tu auras plein d'idées ou même créer une association sur le terrain.
Peut-être pas.
Hein ? On en reparle dans quelques années. Tu viens nous voir à France Inter pour nous dire ce que tu as fait ?
Avec grand plaisir. Peut-être je travaillerai ici, hein, on ne sait jamais.
Ah, est-ce que c'est une ambition ?
Je peux m'orienter vers ce domaine, ça me plaît beaucoup.
De parler devant un micro et d'aller faire du reportage ?
Ouais.
Avant d'écouter justement le dernier reportage, The Weeknd avec Hurt You.
My enemy, so stay away from me. I'm warning you. You try to fill the void with every man you meet, 'cause you're upset with me. I'm warning you. 'Cause all the nights you slept alone, drying your I don't.
C'était Weekend avec Hurt You.
France Inter.
Vive France Inter, vive Interclasse.
C'était grave bien et si j'aurais une autre possibilité de refaire cette expérience, je la refais.
Interclasse.
C'est la troisième saison du programme d'éducation aux médias et à l'information de France Inter. 180 élèves, professeurs, journalistes et producteurs impliqués cette année. Collégiens et lycéens ont réalisé une vingtaine de reportages inspirés de la devise républicaine. Dernier reportage de cette émission avec Mariam. Quel mot de la devise avez-vous choisi ?
On a choisi la liberté.
Et qu'est-ce que vous vous êtes posé comme question par rapport à la liberté ?
On s'est demandé ce que ça voulait dire ce mot. C'était pas facile de choisir un angle, parce que c'est très abstrait comme concept. On a finalement choisi de parler avec des gens de différentes générations et pays, pour leur demander leur vision. On n'a pas l'habitude de poser des questions à des inconnus, mais c'était très intéressant comme exercice, parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde a une expérience différente de la liberté. Mais même si on n'a pas trouvé une seule réponse, à chaque fois, ça nous a fait avancer dans notre propre réflexion.
Eh bien, on écoute.
Au début de l'année, pour nous, la liberté c'était uniquement lié à l'enfermement physique et aux interdits. On avait du mal à vraiment définir ce terme.
Je me suis sentie enfermée quand l'ascenseur s'est bloqué pendant une heure.
Quand je peux jouer à la play toute la nuit, je me sens libre.
Quand je suis au collège, je me sens enfermée, je me sens libre de prendre les transports en commun. Le vendredi, des vacances, je me suis sentie libre.
Et puis, pour nous, la notion de la liberté, c'était surtout très lié à la prison.
Il y a enfin une citation qui dit « Pour apprécier la lumière, il faut avoir connu l'obscurité. Pour apprécier la liberté, il faut peut-être avoir connu l'emprisonnement pour se rendre compte de ce qu'est la liberté. »
C'est pour ça qu'on a eu envie d'interroger Stéphane, qui est en semi-liberté depuis quelques mois. Il a la cinquantaine, 5 enfants, et il a trouvé du travail dans un magasin de costumes. Le soir, il rentre dans sa cellule à la maison d'arrêt de la santé dans le 14e arrondissement.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de moments où vous êtes senti enfermé dans la prison ?
Quand on sort de prison, c'est là qu'on se dit, mais c'était vraiment l'enfer. On était enfermé de 20 heures par jour, on n'a aucune liberté. C'est un surveillant qui vous ouvre la porte, donc vous avez votre porte fermée. Vous devez sonner un bouton pour qu'on vienne vous voir, il arrive une heure après. Vous avez envie d'un Coca-Cola ou d'un café. Si vous ne l'avez pas cantiné en avance, ben, à aucun moment, un croissant, j'en ai pas vu pendant 5 ans.
Allô ?
Allô ?
De là, on s'est dit que ce serait intéressant d'élargir notre point de vue pour voir si la liberté était vécue de la même façon à l'étranger et par ceux d'une autre génération.
Oui, je vous entends. Excellent. Très, très bien.
Je vais te poser des questions.
Ça va ?
Est-ce que tu t'es déjà senti enfermé ?
Vous m'entendez bien ?
Voilà le témoignage de l'oncle d'un de nos reporters qui est au Sénégal, à Dakar.
Bon, admettons, il m'arrivait à vouloir aller au Marivaux. Parce que chez vous, vous partez à la piscine, mais nous, on avait des lacs de marivaux. On partait en aventure comme ça, c'est-à-dire on partait en cache-cache.
Enfin, on a posé la question à Anis, 25 ans, étudiant en pharmacie à Alger.
À Alger, il y a un souk pour acheter des oiseaux. Et mon frère, il aime bien collectionner les oiseaux. Moi, c'est quelque chose qui me débecte carrément, parce que je m'identifie à l'oiseau qui est en cage et je me vois en lui. Et du coup, une fois la nuit, je suis allé ouvrir la cage pour le laisser s'échapper. Parce que pour moi, cet oiseau-là, enfin, il appartient à l'immensité du ciel. Il n'est pas fait pour être enfermé dans une cage. Et j'ai ouvert la cage et l'oiseau ne voulait pas sortir. Peut-être que parce qu'il est né dans une cage, que pour lui, le voler librement ne signifie rien. Donc pour moi, la liberté, c'est d'abord à définir de manière individuelle. Voilà.
La conclusion d'Anis nous a beaucoup plu.
Si tu te sens plus libre en vivant à la marge de la société, alors vis à la marge de la société. Si tu te sens plus libre quand tu es protégé dans la cage, ben reste dans la cage. Mais c'est vraiment à définir de manière individuelle. Voilà.
Elle nous a donné envie de lui rendre visite en Algérie.
C'est bon Alger, vous devriez tous venir.
Salut Anis.
Allez, portez-vous bien les amis.
Au revoir.
C'était Sommes-nous libres, témoignage de France et d'ailleurs signé Chanel, Mariam, Saïf Ali, Juan, Saliou et Lydia.
Un reportage réalisé avec l'aide de Caroline Gillet, productrice à France Inter. Alors on voit bien au fil de l'année que votre point de vue sur la liberté a évolué et ça c'est intéressant, le cheminement de votre pensée. Saïf Ali, qu'est-ce que c'est pour toi la liberté ?
Pour moi, la liberté, c'est quand on est libre de faire nos propres choix. On peut décider de ce qu'on veut faire, décider de où on va aller, on peut décider de notre avenir.
On entend que pour vous, au début de l'année, quand vous avez commencé à réfléchir, la liberté était très associée à l'univers carcéral, à la prison, et puis qu'au fil de la réflexion, tout ça s'est un petit peu modifié.
Oui, parce qu'au début de l'année, on pensait juste qu'on n'était pas libre que lorsqu'on était en prison, parce qu'on se disait que sinon on était libre, on pouvait faire ce qu'on veut. Mais en fait, comme dans le reportage on l'a entendu, pour connaître la liberté, il faut avoir vécu l'enfermement. D'une personne qu'on a interviewée qui nous a dit ça, bah, je pense qu'il a raison, parce que grâce à lui, maintenant, on a réfléchi à ce qu'est la liberté, on a trouvé une autre définition par rapport à ce qu'on avait au début de l'année.
Est-ce que toi, tu te sens libre ?
Oui, je me sens libre.
Est-ce que l'école est un espace de liberté ?
Pas vraiment, parce qu'à l'école, on doit suivre des règles définies, on n'est pas vraiment libre de faire ce qu'on veut.
Ça y est, Fali, est-ce que c'est un lieu important pour toi, l'école ?
Oui, c'est un lieu important, parce qu'à l'école, on apprend beaucoup de choses. Sans l'école, on serait rien du tout. On serait pas libre de faire ce qu'on veut, puisqu'on serait incapable de choisir, puisqu'on sait pas quelle chose veut dire quoi.
Aïcha, l'école, c'est un lieu important pour toi ?
Oui, pour moi, c'est un lieu important, parce que ça fera de nous un citoyen, et ça nous apprend un peu les bases de la vie pour faire nos choix.
Ça y est, Fali, c'est quoi un bon prof ?
Pour moi, un bon prof, c'est un prof qui aide d'abord ses élèves à comprendre le cours avant de vouloir finir son programme. Qui essaie de faire comprendre son cours pour que les élèves retiennent ce qu'il y avait à apprendre. C'est un prof qui prend en compte nos difficultés pour nous aider individuellement. Et c'est un prof qui essaie de nous pousser vers l'avant au maximum.
Kelvin, c'est quoi un bon prof ?
Alors, tout d'abord, un bon prof, c'est un prof qui nous aide à nous développer, parce que surtout en cette année de troisième, où on a le brevet, l'orientation des lycées. Donc, on a besoin d'un prof qui sait nous orienter, qui connaît nos capacités et nos faiblesses, qui peut nous dire si, par exemple, c'est mieux pour nous de prendre un lycée général ou un lycée pro. Voilà, ça, pour moi, un bon prof.
Et pour toi, à quoi pourrait ressembler une école idéale ?
Alors, une école idéale, c'est une école, déjà, on va commencer par l'architecture, parce que c'est la première chose qu'on voit, en fait, quand on voit une école. Pas de grillage en mode prison, des choses comme ça, j'aime pas trop. Et après, c'est surtout aussi, comment on peut dire ça ? Pas le staff.
L'équipe ?
Voilà, l'équipe, on va dire ça comme ça, qui nous entoure. Des bons surveillants qui sont en même temps amicaux, mais qui sont autoritaires, qui peuvent nous encadrer. Des professeurs qui sont aussi autoritaires, qui nous poussent vers l'avant, qui nous aident dans la vie du quotidien aussi.
Donc une école hyper sérieuse finalement, oui. Et ouverte vers l'extérieur. Mm-hmm. Boubou, c'est quoi une école idéale pour toi ?
Pour moi ? C'est une école avec beaucoup de profs gentils, qui est une école sans sanction, et où il y a le prof idéal.
Mariam, une école idéale, elle ressemble à quoi ?
Où il n'y a pas de devoirs.
Kelvin ?
Le plus important, des cours où on peut grignoter, parce que je suis partie des personnes vers 10h, 11h, je commence à ressentir la faim et j'arrive plus à me concentrer.
Bon, écoute, on fera passer toutes ces informations au ministre de l'Éducation nationale. Interclasse. Avec les journalistes de l'équipe du collège Georges Rouault dans le 19e, Sarah Guibaudot, vous êtes journaliste au service police-justice de la rédaction de France Inter. Interclasse, c'était une première pour vous. Quel bilan vous tirez de l'expérience ?
Bah, moi, je me suis surtout bien amusée et j'espère que je leur ai transmis ça. Parce que le reportage, évidemment, on apprend des choses, mais surtout, on se fait plaisir. On apprend qu'on peut découvrir des choses passionnantes juste à côté de chez soi ou plus loin. Donc voilà, nous, on est partis sur les startups. Je ne sais même pas comment on est arrivé là, mais on en a découvert à 3 stations de tram du collège. Et puis, on est allé chez Facebook. Je pense que pour tout le monde et pour les élèves, Facebook, voilà, on ne sait pas exactement à quoi ça ressemble à l'intérieur. Nous, on a vu. Et il y a même une élève qui est sortie en me disant « j'ai envie d'y travailler ». Enfin voilà, on s'est surtout bien amusé, on a découvert des choses et c'est ça surtout le journalisme et j'espère que je leur ai fait passer ça et en tout cas on s'est bien amusé ensemble.
Merci Dorothée Barbard, journaliste et chroniqueuse à France Inter.
Bonjour.
Bonjour, alors Interclasse c'est la deuxième saison, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre aux élèves ?
Je ne sais pas si je leur transmets quoi que ce soit, c'est surtout une rencontre. Moi, comme Sarah, je m'amuse beaucoup avec ce projet. J'ai beaucoup de chance de rencontrer ces élèves. C'est vraiment une rencontre hyper enrichissante, très drôle. Les 6 élèves que je supervisais là, dans ce petit groupe étaient hyper énergiques. Et surtout, Moi, ce que je retiens, c'est qu'ils ont appris à tout remettre en cause, toutes les certitudes. On travaillait sur le sexisme. Stéréotype, c'est un mot qu'ils ne connaissaient pas. Et j'ai bien vu qu'il y avait souvent le parallèle avec le racisme qui se faisait. Voilà, on mettait sans arrêt sur la table des réflexions autour du sexisme et du racisme. Et on a appris à remettre en cause les certitudes sur un tel devrait faire ça parce que c'est une fille, un tel devrait faire ci parce que c'est un garçon. Et c'était hyper enrichissant.
Merci Dorothée. Caroline Gillet, vous êtes productrice de Babelophone.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes souvent en contact avec des jeunes. Qu'est-ce que les jeunes d'Interclasse vous apportent ?
Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce projet, c'était de pouvoir effectivement travailler avec eux toute une année et du coup d'apprendre à se connaître les uns les autres et d'être très bien ensemble à la fin de l'année, de se sentir bien, de voir cette évolution. C'est toujours très chouette et très touchant. Et je pense qu'on a cette évolution et le fait qu'on se sente bien ensemble, c'est parce qu'on a notamment vécu des moments assez forts ensemble cette année. Je sais pas s'ils le ressentent comme moi, mais on a interviewé un ancien détenu qui a été très ému de répondre à des questions d'élèves. C'était intéressant d'ailleurs de voir à quel point cet homme, je lui avais posé les mêmes questions juste avant pour m'assurer que c'était possible de le faire devant les élèves. Il était pas très ému. Et puis là, le fait de se retrouver devant des jeunes qui ont l'âge de ses enfants alors qu'il a fait de la détention, ça l'a beaucoup ému. Et ça, c'était un moment très fort à vivre ensemble. Je pense que le journalisme, c'est souvent ça, c'est des rencontres et des moments forts. Et encore une fois, on a été assez émus parce qu'on est tombé, on est bien tombé sur notamment un jeune à Alger qui nous a dit des choses qui nous ont vachement questionnés et intéressés sur un mot qu'on pensait, dont on pensait avoir fait le tour et qui nous intéressait pas tant que ça, peut-être au début, ou en tout cas, on n'arrivait pas à mettre de mots dessus. Et là, il nous a vachement interpellés.
On fait partie de la classe maintenant, non ?
Ah, grave, j'espère.
Ouais. Eh bien, merci à vous toutes pour votre implication, pour votre engagement et ce partage d'expérience. Merci aux élèves du Collège Georges Rouault pour cette année d'interclasse. Merci également à leurs enseignantes, Laurence Grammard et Elena Pavel. Merci à tous. On salue aussi nos partenaires, le CLEMI, la Fondation de France, Netia et l'Institut pratique du journalisme Paris Dauphine. À la réalisation de cette émission, la pimpante Sonia Leglen. À ses côtés, chargée de la production, l'Olympienne Fanny Léonore Crouzet. Et à la technique, aussi fort à la prise de son que dans l'art du chignon, Antoine Gomez. Et puis on vous dit évidemment à la semaine prochaine, même heure, même énergie, même sourire. Et d'ici là,
enjoy!
Et après le flash, ce sera Les Aventuriers de Fabienne Chauvière.